Si je résume, de Jo Osland, lu par l'auteur, aux éditions Magnard Jeunesse, dans la collection Presto. Vous me demandez souvent les uns les autres, petits ou grands, mais c'est vous dans cette histoire? Ça vous est vraiment arrivé? Ma réponse est en général plus ou moins. C'est plus ou moins arrivé, plus ou moins moi, plus ou moins ma vie. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Car dans le fond, ça se résume à quoi, ce qui fait une vie, ce qu'on devient, ce qu'on est? Une somme de petits moments, de petites choses, de presque rien qui déciderait de presque tout. Certains moments de l'enfance comptent sans doute plus que les quelques instants affichés sur montres et pendules. Alors, si j'essayais de les raconter en quelques pages, ces moments-là, de chercher à quelle station s'est brièvement arrêté le train de mon enfance sur sa mystérieuse ligne de vie. Un soir de mes 12 ans, mon père est arrivé moins tard que d'habitude, l'air mystérieusement content de lui, la gueule enfarinée, soufflerait ma mémé au langage délicieusement imagé. « Ça vous dirait, les enfants, d'aller habiter à la campagne ?» nous a-t-il lancé. « La campagne ?» Il nous aurait demandé si ça nous plairait d'aller habiter sur la Lune, que ça m'aurait pas semblé plus étrange. La campagne. Je ne la connaissais que par les fables de La Fontaine. Perrette et le pot au lait, veau, vache, cochon, couvée, maître corbeau, maître renard, le chêne et le roseau. La fourmi n'est pas prêteuse, que mon vieux Pépé transformait en la fourmi est bien péteuse, pour nous faire rigoler. Mon frère et ma petite sœur ont tout de suite crié un « ouais !» enthousiaste, sans même rien connaître des fables de La Fontaine. Mais demandant plus pragmatique, on pourra avoir un chien? Et mon père, superbe, oui, et un chat aussi, si vous voulez. Il était sûr ainsi de déclencher l'ovation générale de sa progéniture qui lui avait toujours réclamé des animaux difficiles à héberger dans un 3 pièces d'HLM. Alors cette fois, ça y est? T'as trouvé? A fait maman les yeux brillants. Et c'est comme ça qu'on a appris que papa avait démissionné de son boulot de représentant qu'il envoyait se balader toute la semaine sur les routes, et ça tombait bien, parce que maman en avait assez de l'attendre en raccommodant les chaussettes comme Pénélope Première espérant Ulysse. Tout cela les avait conduits à envisager une entreprise familiale, à savoir tenir ensemble un petit hôtel-restaurant à la campagne. Et papa venait de le trouver, dans Lyon, à 160 km de Paris. Emballés par l'aventure qui s'annonçait, mon frère et ma petite sœur se sont mis à jouer aux chiens et aux chats, à se poursuivre, à sauter partout dans l'appartement et maman a protesté par habitude « Chut, les voisins !» Mais papa a rétorqué « Tant qu'un jour, plus de « Chut, les voisins !» les gamins auront toute la campagne bourguignonne pour courir, sauter et se dépenser. » Plus tard, dans mon lit, je me tournais, me retournais, je pensais « C'est toujours pareil. Ils prennent des décisions comme ça, hop là, ça va tout bouleverser dans ma vie et tout le monde se fiche de savoir ce que j'en pense. On me met devant le fait accompli, eux, ils voient même pas où est le problème. Des amis? Oh bah à ton âge, tu t'en feras d'autres. Comme si on pouvait changer d'amis comme de chemise. Ton lycée? Mais il y en a un à 10 km, t'inquiète. Ton cours de danse? Ah bah ça, je sais pas. Mais il y aura plein de choses nouvelles à faire à la campagne. La pêche, la chasse, les balades, tu verras. La pêche? Il me voyait, moi, incapable déjà d'enfiler un fil dans une aiguille pour accommoder une chaussette, accrocher des asticots au bout d'un hameçon? La chasse? Je tuerais, moi, des lapins vivants? Me balader, moi, toute seule dans les grandes forêts comme un chaperon rouge mais en anorak bleu? Ils étaient devenus fous ou quoi? Pendant une semaine, j'ai fait comme si on parlait de tout ça juste pour imaginer comment ce serait si on allait habiter la campagne, une sorte de jeu de rôle, une petite pièce de théâtre familiale. Mais le jour où mon père a débarqué dans l'appartement avec un chien, là j'ai compris que ça allait vraiment arriver. J'allais vraiment devoir quitter mon quartier de la banlieue parisienne, mon immeuble, ma chambre, mes amis, m'en aller vivre sous un autre ciel, d'autres étoiles, et plus rien ne serait jamais pareil. Et j'en ai pleuré, discrètement, dans les toilettes, en déroulant des kilomètres de papier rose pour éponger mes larmes et me moucher le nez. Quand je suis ressortie, seul le chien s'est aperçu de ma tristesse et m'a léché les mains, puis le visage, là où sans doute un goût de sel était resté. C'est comme ça que le chagrin est entré dans ma vie. Tout s'est fait à toute vitesse. On est des rapides dans la famille. La décision prise, on fonce. La veille de notre départ était le dernier jour du premier trimestre de mon année de sixième. On nous a distribué les bulletins. J'étais bonne élève en français, en langue, pas en maths. Au total, j'avais une moyenne honorable. J'ai annoncé que je déménageais, que je ne reviendrais pas en janvier. Mais c'était presque Noël, tout le monde était déjà dans la perspective du bonheur, des cadeaux, la joie des fêtes annoncées. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'écho à ma mélancolie. Mes deux meilleures copines m'ont demandé « T'es contente ?» J'ai soupiré « Pas trop ». Elles ont compati, mais un peu seulement, pas assez à mon goût. « Ma pauvre, t'en fais pas, ce sera peut-être super en fait. Et puis tu nous écriras hein, pour tout nous raconter. » Nous, on viendra te voir aux vacances d'été, peut-être, si nos parents veulent bien. Tout ça faisait quand même pas mal de peut-être, et donc pas beaucoup de certitudes. Elles m'ont laissé à mes doutes, elles ont filé vers leur chez-elles qui restait leur chez-elles, tandis que moi, je me dirigeais vers un chez-moi qui ne l'était plus déjà. C'est comme ça que la séparation est entrée dans ma vie. Quand on est arrivé à destination, dans Lyon, après avoir voyagé dans une voiture aussi chargée que celle de travailleurs émigrés, il faisait nuit et un froid de loup. La neige était tombée, le sol était tout glissant, verglacé. Ça m'aurait à peine étonné de trouver au coin d'une rue, toute recroquevillée, une malheureuse petite fille aux allumettes ou le pauvre Kay, blessé au cœur par la reine des neiges. Même dans l'auberge qui était notre nouvelle maison, il faisait froid. Sauf dans la cuisine, où ronronnait une énorme cuisinière en fonte noire, comme je ne savais même pas qu'il en existait. « Faut coucher les mômes, » dit mon père, « ils sont morts. » La chambre, comme celle de l'ogre du petit Pousset, était pleine de lits pour les parents et leurs trois enfants. On allait dormir tous ensemble. On m'aurait proposé ça 10 jours avant, j'aurais fait la tronche. Mais là, j'ai ressenti un immense soulagement. Je n'allais pas rester toute seule trop triste. Le chat de l'ancienne propriétaire est entré dans notre chambre, la queue en l'air, et mon frère a lancé une blague. « Regarde, tu trouves pas que le trou du cul du chat, ça fait comme un œil borne, tout noir, quand il nous tourne le dos? C'est un chat de pirate ou quoi ?» Alors on s'est écroulé de rire sur notre lit. J'en avais des crampes dans le ventre, j'en pleurais. À la fin, tout de même, on a fini par s'endormir. Le plus près possible l'un de l'autre, mon frère et moi, dans nos deux lits qui se touchaient, bien enfouis sous les couvertures, pareil à deux enfants revenus à la préhistoire, dans leur grotte, sous les peaux d'ours. Et c'est comme ça qu'un peu de réconfort est revenu dans ma vie. Il n'y avait pas que le chat de l'ancienne propriétaire qui était resté là, son vieux chien aussi, et il n'avait que trois pattes, lui. La quatrième, il se l'est fait arracher par un train quand il était jeune, nous a raconté sa maîtresse. Un frisson m'a saisi à l'entendre nous évoquer l'accident, comme ça, tranquillement, d'une voix normale, sans la moindre trace de pitié pour la pauvre bête, comme si c'était pas plus grave que pour nous quand on s'écorche le genou. Le lendemain, l'ancienne propriétaire nous a demandé si on acceptait de le garder, ce vieux chien, parce qu'il était habitué à vivre là, évidemment. Mais on avait déjà notre jeune berger allemand. Papa nous avait expliqué que dans un bar, c'est ça qu'il faut avoir, ça calme les clients qui feraient des histoires. Il a répondu à la femme, « Non, merci, on a notre chien, ça nous suffit. »« Ah bon, ça fait rien », a fait l'ancienne propriétaire laconique. Moins d'une heure après, le vétérinaire est arrivé. Il a tiré le vieux chien de sous la table de la cuisine où il s'était caché. Le chien a hurlé à la mort, un hurlement continu, affolant, déchirant, qui nous a pétrifiés. Puis il s'est tu, brusquement, et s'est écroulé sous la piqûre. Raide mort. Sa maîtresse a dit simplement au vétérinaire, « Merci, ça n'a pas traîné. » Ils ont mis le vieux chien dans un grand sac et ils sont repartis. Mes parents évitaient nos regards, mon frère et moi en pleuraient, anéantis. Dans ce nouveau monde, je réalisais que les animaux n'étaient plus que des bêtes. Ils n'avaient que poils, moustaches, museaux, chair, rien d'autre. Ni émotion, ni sentiment, encore moins une âme, évidemment. J'ai dit que j'avais très froid. Maman a attisé la cuisinière et le feu a brûlé plus vif. « Allez plutôt jouer dehors, les enfants !» a ordonné mon père avec une sorte de colère dans la voix, comme si quelque chose était de notre faute, mais que personne ne savait exactement quoi ni pourquoi. « Allez courir, dépensez-vous, bon sang! Vous avez de l'espace maintenant, alors profitez-en, au lieu de rester plantés là comme des poireaux !» Mon frère et ma sœur sont sortis avec notre chien qui a fait le fou dans la neige des talus, s'y enfonçant le museau et le faisant réapparaître avec un dôme de chantilly posé sur la truffe. Moi, j'ai continué de me serrer contre le flanc ronronnant de la cuisinière, tâchant désespérément de chasser le mortel courant d'air glacé que l'assassinat du vieux chien avait infiltré dans mon cœur. Et c'est ainsi que la mort est entrée d'un seul coup dans ma vie. Plus tard, mon père nous a demandé d'aller acheter le pain. Ce n'était pas loin, il fallait simplement suivre la route qui menait au village. « Ce sera après l'église. Vous n'avez qu'à vous y rendre avec le chien. » On est partis, mon frère et moi. Ça sentait l'aventure. L'aventure, moi, je voyais ça comme dans les histoires du Club des Cinq, où les jeunes héros arrivaient dans un nouvel endroit. Par hasard, ils tombaient sur des inconnus qui préparaient un plan diabolique. Alors un chouette mystère se proposait, que les héros résolvaient les doigts dans le nez, ou presque. Elle est arrivée très vite, l'aventure. Au premier virage, des garçons jouaient dans la neige. Ils n'ont pas eu besoin de se concerter pour nous tomber dessus et leur plan ne nous est pas resté inconnu bien longtemps. Ils nous ont balancé des boulets glacés en rafale et dedans, ils avaient enfoui des cailloux pour nous faire plus mal. On s'est retrouvés, dos au mur, mon frère et moi, les bras devant le visage et le jeune chien dans nos jambes, apeuré. Soudain, atteint par une pierre au museau, il s'est sauvé en hurlant. Les garçons rigolaient bien. On est retourné à l'auberge, moi pleurant, mon frère furieux. « Ils nous ont attaqués ! Ils ont fait sauver le chien !» « Oh, c'est des histoires de gamins, c'est pas grave, il va revenir le chien », a fait notre père pour nous rassurer. « En attendant, vous n'avez pas rapporté le pain. Faut que j'y retourne. Bon, je verrai en chemin si je retrouve le chien. » Il avait raison, le chien est bien revenu tout seul. Et nous, on l'a couvert de bisous parce qu'on n'était pas des sauvages qui balancent des boulets, mais des enfants très civilisés. Pour nous, un chien, c'était pas une bête qui peut recevoir un caillou dans l'œil ou se faire arracher une patte par un train, mais Rintintin, Lassie ou Milou, quelqu'un. « Il faut que vous appreniez à vous défendre, les enfants, a déclaré mon père, sinon vous n'avez pas fini d'en baver. » Donc, non seulement je n'allais plus être danseuse, ballerine tourbillonnante sur la pointe des pieds, mais j'allais devoir donner des coups de pied, des coups de poing comme Marcel Cerdan ou Mohamed Ali. Eh bien, ça n'a pas tardé. Pas longtemps après, un garçon de mon âge, venu piquer les cailloux tout neufs que je ratissais pour la terrasse, sans doute pour nous bombarder à nouveau, n'a pas eu le temps de dire ouf. Prise de rage, je lui ai sauté dessus, l'ai jeté à terre et lui ai cogné si violemment le front contre les cailloux convoités qu'il s'est mis à pisser le sang. J'en étais la première ébahie. Le soir, sa mère est venue se plaindre de ma brutalité à mon père qui lui a répondu « Moi, personnellement, si mon fils se faisait battre par une fille, je n'irais pas le crier sur les toits. » C'est comme ça que j'ai compris qu'on peut tous avoir la rage et se battre comme des chiens dans la vie. Les vacances de Noël finies, il a bien fallu retourner en classe. C'était assez loin, une dizaine de kilomètres, et il n'y avait ni bus ni train. Il fallait que mon père m'y emmène et ça l'enchantait guère. Il n'avait pas que ça à faire le matin. Il fallait servir les petits déjeuners des clients, préparer leurs notes de séjour. Il râlait, papa. Il se demandait si c'était bien utile que j'aille à ce lycée. Mais j'étais bonne élève. J'aimais apprendre. Et maman y tenait. Quand je suis arrivée, on m'a montré où se rangeaient les élèves de ma classe. J'ai rejoint le rang, me suis mise tout au bout. Quelques filles se sont retournées pour me regarder. L'une m'a interrogée. « D'où tu viens ?» J'ai répondu. « De la banlieue parisienne. » Elle a pouffé et passé aux autres. La nouvelle, elle dit qu'elle vient de la banlieue parisienne. Les autres ont pouffé aussi. Je me demandais pourquoi c'était drôle. Je ne savais pas quel cours on allait avoir. Je ne savais pas si ça allait me paraître difficile ou pas. Je ne savais pas s'il fallait avoir un classeur ou un cahier, ni quel livre, ni comment s'appelait le professeur. Je ne savais rien. Quelle angoisse, soudain. Une autre m'a demandé « Pourquoi t'as pas de blouse ?» J'ai pas compris. « De quoi ?» Elle a pouffé, elle aussi. « De blouse » a-t-elle répété en articulant bien comme si j'étais sourde ou demeurée. Elle a passé le mot aux autres encore. La nouvelle, elle sait pas ce que c'est une blouse. Elles ont encore pouffé, toutes. Mais moi, j'avais entendu « blouse ». Et ça, je connaissais parce que mon grand-père, il en jouait du blues au piano. Et je savais aussi qu'avoir le blues, c'est se sentir triste. Alors s'il y avait bien quelqu'un dans cette classe qui avait le blues, c'était incontestablement moi. Mais en quoi ça les regardait, ces andouilles? Je me suis demandé si la blouse dont elle parlait, ça n'aurait pas été, par hasard, ce qu'on appelait chez nous un tablier. Mais alors pourquoi je n'en avais pas s'il en fallait un? Et y avait-il encore plein d'autres choses que je n'avais pas, et lesquelles qui allaient encore les faire ricaner? Dans la classe, je me suis assise au fond, seule. À l'appel de mon nom, j'ai répondu « Présente ». Mais je me sentais loin, très loin, comme tombée du ciel, d'une autre planète. Pendant le cours, on m'a interrogée une fois, j'ai répondu à la question, les autres ont encore pouffé. Pourtant, la prof avait dit que c'était bon. La fille qui était devant moi s'est retournée et m'a enfin donné l'explication. « Tu parles drôlement, avec l'accent de Paris. » Je ne savais pas qu'il y avait un accent de Paris. Je me suis mise à les écouter et j'ai alors observé qu'elles parlaient drôlement, elles aussi. Dans leur bouche, les R roulaient comme des cailloux et les A avaient tous comme un accent circonflexe invisible. Mais ça ne me faisait pas rire, parce que visiblement, elles parlaient toutes comme ça, se comprenaient et s'entendaient toutes. La seule qui ne comprenait pas et qu'on ne comprenait pas ici, c'était moi. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qu'éprouvait un étranger qui a changé de pays et de vie. L'après-midi de cette première journée à l'interclasse, on m'a appelé chez la surveillante générale pour remplir un papier. J'ai demandé à une élève dans quelle salle je devrais les rejoindre. Elle a pouffé, m'a donné un numéro. Je suis allée remplir le papier demandé et je suis rentrée au numéro qu'on m'avait indiqué. Là, je ne me suis pas aperçue tout de suite que je n'étais pas en compagnie des mêmes élèves qu'un peu plus tôt parce qu'elles ont pouffé de même quand je suis entrée. Ne voyant aucune chaise disponible, au professeur qui me demandait ce que je cherchais, j'ai répondu « Une chaise libre ?» Elle m'a informé que je m'étais trompée de classe et a dépêché une de ses élèves pour me ramener à bon port, devant une porte que je n'ai pas osé franchir cette fois, persuadée de déclencher encore une fois l'hilarité générale si je me pointais. J'ai fini cette heure-là, planquée dans les toilettes, où il n'y avait même pas de papier rose pour m'essuyer les yeux et le nez. J'y ai attendu la sonnerie de la fin du cours pour réapparaître en toute discrétion. À mon père qui, le soir, me demandait dans la voiture du retour si ma journée s'était bien passée, j'ai répondu oui, pour ne plus y penser, oublier cette première journée catastrophique. Mais il me faut un tablier, bleu, très vite, hein, parce que c'est obligatoire dans ce lycée, lui ai-je tout de même indiqué. Sinon, je peux être renvoyée, ai-je ajouté pour dramatiser un peu, afin qu'il voie que cette école, il fallait l'affronter, que ce n'était pas de la tarte. Ah, ben, je voudrais bien voir ça, a-t-il bougonné. Il ne te renverrait pas de l'école à cause d'un tablier, quand même. Il m'entendrait. Renvoyer. Ah, le rêve. Si on avait pu me renvoyer d'où je venais. Comme une lettre arrivée à la mauvaise adresse et qu'on retourne au destinataire. D'un coup de baguette magique, me réexpédier dans mon HLM tranquille et douillet de la banlieue parisienne, où l'on mettait à son chien un joli collier, où la neige tombait douce et poudreuse, où le chauffage était central, où tous les enfants parlaient comme moi et où le mot « blouse » désignait joliment la tristesse et non un affreux vêtement informe d'un bleu si moche qu'il fallait beaucoup d'imagination pour le qualifier de bleu ciel. Mais bon, c'était impossible. Mon ancien appartement était maintenant occupé par une autre famille et sans doute une autre fille que moi disposait de ma chambre, y rangeait ses livres sur mon étagère et regardait mes étoiles par ma fenêtre comme si c'était les siennes. Voleuse, va. C'est comme ça que la nostalgie est entrée dans ma vie. Les jours vont passer lentement. Chaque journée me semblera contenir beaucoup plus d'heures que mes journées d'avant. J'écrirai à mes amies restées à Paris. Elles ne me répondront pas très vite, voire pas du tout. Quand je m'en plaindrai à maman, elle leur trouvera des excuses. Qu'est-ce que tu veux? Elles ont leur vie, elles aussi. Ne pense pas qu'à toi. Faut tourner la page. Allez, viens plutôt m'aider au lieu de te morfondre. Je soupirerai avant d'obéir, mais avec une tête de martyr. Avec elle, je ferai les lits des clients, drap blanc, bien bordé, sans un pli. Pour que la corvée soit plus gaie, maman chantera « Étoile des neiges ». Bonjour, monsieur le printemps. Le temps des cerises. Au bout d'un moment, je cesserai de bouder. Je l'accompagnerai. J'éplucherai les pommes de terre, attention, si on les épluche jusqu'au bout sans que la pelure se déchire, ça fait une ribambelle et on a gagné. Je découperai les patates en frites, ni trop fines, ni trop épaisses, des lamelles bien égales. J'apprendrai à rouler et dérouler la pâte à tarte, à trancher le pain bien également. Je rincerai les verres au bar avec mon père. J'aimerais les voir parfaitement alignés. Verre ballon, coupe à martini, verre à liqueur tout petit comme ceux de Madinette, flûtes à champagne, long verre bâton ou en tulipe pour les bières, tous devant briller sous le chiffon pour qu'on apprécie la couleur du liquide rouge, d'or, ambré, que mon père versera dedans. J'aiderai parfois en salle aussi, le dimanche, plateau à fromage posé bien à plat sur les paumes de mes mains. Je plierai les serviettes en forme de bateau, de chapeau, de cocotte, rendrai la monnaie à la caisse sans me tromper. Il y avait tellement, tellement à faire à présent. Je voyais bien que je n'étais pas la seule à avoir changé de vie. Papa et maman, mon frère et ma sœur aussi. Mais je me disais que mon père et ma mère l'avaient choisi. Quant à mon frère et ma sœur, ils semblaient tout à fait heureux ici, eux, bien plus qu'en région parisienne. Ils roulaient à vélo à travers la campagne, couraient les collines avec le chien, jouaient avec les enfants du bar d'en face et de la ferme d'à côté, apprenaient à attraper les serpents, les tritons, les salamandres. Bientôt, mon frère me montrera comment prendre une couleuvre ou une vipère juste derrière la tête pour qu'elle ne puisse, en se retournant brusquement, me planter son crochet venimeux dans la main. Dans cette nouvelle vie, j'apprendrai aussi à faire boire le jeune veau dans le seau. J'embrasserai son museau tout doux, tout chaud, trempé de lait. Je m'exercerai à trier les pommes de terre à la cave, à me garer les mollets des coups de bec des poules, à ne plus pleurer quand l'infirmière trouvera les chats nouveau-nés dans le foin et les jettera aussitôt contre le mur pour les tuer, leurs petits cadavres déchiquetés en moins de deux par les becs des poules qui se les disputeront, surexcités. Je ne dirai plus rien non plus quand, descendant à la cave chercher du vin, je serai suivi par le regard brillant d'un rat gros comme un lapin, ni quand mon père tentera par trois fois d'assommer un lapin, justement, pour l'écorcher, et n'y parvenant qu'à moitié, partagera avec lui un verre d'alcool fort pour se remettre ensemble de leurs émotions. Ils deviendront copains comme cochons. C'est comme ça que j'apprendrai à m'adapter. Cependant, il y a eu des compensations à tout cela. J'ai vu éclore les œufs, en sortir des poussins duveteux ou des canetons ébouriffés. J'ai caressé dans le clapier le dos lustré des lapereaux nouveau-nés. Mon père a construit dans le jardin une volière où mon frère et moi avons pu recueillir les oiseaux blessés et élever des tourterelles qui, apprivoisées, venaient se poser sur moi comme sur leur arbre préféré. Je coinçais alors entre mes dents les graines qu'elles venaient picorer en un étrange baiser d'oiseaux, et le battement de leur cœur sous la douceur des plumes me bouleversait. Quand elles se reproduisaient, devenaient trop nombreuses, j'ouvrais en grand la volière, les lâchais dans le ciel. Je leur offrais une si grande liberté qu'effrayées, elles n'osaient d'abord en profiter, préférant rester perchées sur le toit de l'hôtel ou dans les tilleuls de notre petit jardin. Je les traitais d'idiotes. Je pensais, moi, si on me la donnait, cette liberté, comme j'irais loin, à l'autre bout de la France. L'autre bout du monde me paraissait tout de même un peu loin pour mes 12 ans. C'est comme ça que j'ai compris que la liberté, ça pouvait faire peur, d'abord. En attendant, au doux printemps, j'allais me promener avec le chien dans les collines aux cerisiers. De là-haut, mon regard portait au loin. J'embrassais un paysage champêtre de courbes et de creux, d'arbres et d'eau, harmonieux, s'étendant jusqu'aux confins du ciel à la lumière changeante. J'y faisais de magnifiques promenades, propices aux rêveries, seul ou avec le chien qui apportait alors exubérance et gaieté au chemin parcouru. De sorte qu'ensuite, quelques années plus tard, je serais une des rares étudiantes à lire avec plaisir les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Je retrouverais, au fil des pages, l'impression d'avoir, au cours de mes propres promenades, vécu et pensé les mêmes choses que lui. Mais je le plaindrais un peu de n'avoir pas cheminé accompagné d'un chien qui les aurait certainement rendues beaucoup plus joyeuses. Au fil du temps, des chats perdus, abandonnés, alléchés par les bonnes odeurs du restaurant, se sont fait adopter sans difficulté. Tout le monde à la maison adorait les animaux. Il y a eu des chatons de toutes les couleurs et d'une portée de chiens, on a gardé un chiot tout noir qu'on a baptisé Zorro. J'enfouissais ma tête entre ses pattes contre sa gorge et, quand il haletait ou bâillait, l'odeur tiède et suave de son souffle me ravissait. Il y a eu encore, à portée de bouche et de main, les milliers de cerises très noires, le saut brillant des carpes dans la rivière, le reflet argenté des brochets, la chute d'eau et son vacarme, les pieds nus dans la rivière si fraîche. Les oisillons tombaient des poutres du grenier à nourrir d'une miette plantée au bout d'une allumette. Les salamandres, qui passent l'hiver sans bouger, sous l'épaisse couche de glace et ressortent au printemps bien vivantes. Les têtards, qui se transforment en minuscules grenouilles. J'ai vu la canne pousser à l'eau ses canetons pour les encourager à nager. Notre chien rapporter à la poule son poussin égaré. Toute cette nature peu à peu découverte, telle qu'elle a été, est et sera toujours. J'en ressentirai petit à petit l'intelligence et la beauté. C'est comme ça que d'autres vies, animales, végétales, fragiles, se sont invitées dans ma vie, ma nouvelle vie. Cette histoire continue, bien sûr, mais si vous voulez savoir ce que sera ma nouvelle vie encore sur les nombreuses pages qu'il reste à lire dans ce livre, eh bien, c'est à vous de les tourner, ces pages. C'est comme ça, chacun son tour dans la vie.